Le Festival Diapason, présenté par SiriusXM, vous invite du 6 au 9 juillet à venir fêter avec Bernard Adamus, Soons, Fred Fortin, avec Podcast, The Sadies, Chocolat, Lydia Kepinski, Blood and Glass, Émile Bilodeau et bien plus. 4 jours de musique complètement gratuite dans le quartier Sainte-Rose à Laval. En nouveauté cette année, le village Diapason et sa scène découverte, des spectacles surprises avec les croisières Sirius sur la rivière des Mille-Îles et les retours des camions de bouffe. Utilisez les navettes gratuites disponibles à partir du terminus Montmorency. Le Festival Diapason du 6 au 9 juillet.
Ne manquez pas la 18e édition du Festival international d'art numérique Electra le 28 et 29 juin à l'Usine C et à la Cinémathèque québécoise. Venez participer à la grande soirée d'ouverture We Are the Robots le 28 juin à l'Usine C. 49 personnes du public seront tirées au sort pour participer à la performance robotique Inferno dans laquelle leurs corps seront contrôlés par les machines au rythme de sons et lumières, créant des chorégraphies improbables. Alors, oseriez-vous être un robot pour un soir? Plus d'informations, electramontréal.ca ou sur la page Facebook Electra Festival d'art numérique.
Cannes Football Club, 100% foot, 100% débat, 100% Montréal.
Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le Nightlife Underground montréalais. Découvertes musicales, chroniques culturelles et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de choc.ca.
Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Pop en Stock. Mon nom est Jean-Michel Berthiaume et j'ai pris un peu de temps pour confirmer le numéro de l'épisode car aujourd'hui nous avons le 141e épisode. Je croyais que c'était trop beau pour être vrai, mais c'est bel et bien vrai, c'est bel et bien beau. Nous en sommes à notre 141e heure portant exclusivement aujourd'hui sur un cas de figure assez intéressant. En fait, c'est une nouvelle aparté que je me suis décidé à faire lorsqu'on commençait une émission de Pop en Stock. Je ne ferai pas cette introduction à chaque fois, mais je veux quand même que les gens soient au courant. On voit de plus en plus, en fait, la question est de plus en plus posée dans les domaines de la recherche sur la culture populaire, en quoi est-ce que c'est important ou en quoi est-ce que l'on devrait étudier la culture populaire et encore plus, à quoi sert la culture populaire? Je me suis dit que chaque émission pourrait commencer avec une esquisse de réponse. Et aujourd'hui, je trouve que c'est tout donné pour le faire. La culture populaire peut servir parfois à la réhabilitation. Elle peut servir à esquisser une correction, qu'elle soit historique, politique ou sociale, par rapport à des cas de figure ou des objets culturels. Je pense notamment, par exemple, à la fanfiction qui va reprendre un fandom pour être capable de changer quelques cas problématiques à l'intérieur et la redistribuer à son lectorat en disant « Bon, voyez, il y avait ces petites affaires-là qui fonctionnaient pas tout à fait bien et maintenant on est capable de pas lire ou du moins rendre cette fiction-là plus d'augmenter la qualité de la fiction elle-même. » Aujourd'hui, on pense plus et on va plus parler de la réhabilitation d'un personnage historique parce que le sujet, comme vous l'avez vu, évidemment, il faut... Je m'amuse toujours à faire comme si le sujet arrivait plus tard puis que vous le savez pas. Non, non, mais bon, on parle des pirates. Aujourd'hui, le cas des pirates, pour moi, est tout indiqué pour ce genre de discussion-là, puisque on a une image mentale très classique des pirates. Qu'est-ce que c'est un pirate? C'est brut, c'est sale, c'est assoiffé de sang et d'or. Et c'est essentiellement une force qu'on a, à mon avis, beaucoup trop associé au capitalisme et qui, dans les plus récentes années, notamment suite à l'échec lamentable et la destruction du studio Carolco par le film Cutthroat Island, que vous vous rappelez peut-être avec Gina Davis, on revoit une nouvelle émergence de pirates, évidemment amenée avec Pirates of the Caribbean, mais aussi des pirates à toutes les sauces, donc les pirates informatiques. On parle aussi de la piracy, donc le piratage est devenu un mot extrêmement important, et ça permet, c'est un à la fois un mot important, mais aussi un mot très populaire, et ce mot populaire nous permet une resémiotisation de ce mot-là. C'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui, mais évidemment, on va parler de Pirates des Caraïbes avec Johnny Depp, on va parler d'Assassin's Creed avec Alexandre.
Chose.
Et de micro, allô?
Oui, micro. Allô? Oui, de plein d'autres choses, on va parler de plein d'autres choses.
Plein d'autres affaires.
Plein d'autres affaires.
Donc, Megan Bédard, Alexandre Poirier, ça fait toujours très plaisir de faire l'émission avec vous.
Toujours plaisir d'être ici, merci.
Oh, arrête-moi, la belle fois. Donc, c'est ça, je pensais plutôt à ça, regarder le pirate puis dire comment est-ce qu'on a toujours vu le pirate comme quelqu'un d'avare, quelqu'un qui tuerait pour la propriété, qui veut, qui ne pense pas vraiment à la vie humaine, qui pense plus à l'acquisition des biens matériels, mais qu'actuellement, bon, avec le parti pirate, Pirate Bay, Piracy, les torrents et tout l'imaginaire qui est autour, on revient peut-être à une définition plus historique du pirate, parce que je constate, bon, moi, en préparation à l'émission, j'ai écouté la télésérie Black Sails, qui est une télésérie créée par Jonathan E. Steinberg, produite par Michael Bay. Fuck yeah.
Ah, c'est produit par Michael Bay. Ah ouais.
Michael Bay qui l'a produit.
Okay. Fait qu'y a-tu trop de ralentis, des explosions?
C'est pas lui qui l'a réalisé. C'est juste lui qui a avancé l'argent pour être capable de le faire.
Il aurait pu donner du cash, un budget pour les explosions. Je sais pas.
Peut-être que.
Je sais pas comment ça marche, l'industrie du cinéma. J'en ai aucune idée.
Quand vous avez du bois qui craque, il faut que ça fasse du feu.
Oui, c'est ça. C'est ça. Dépenser cette enveloppe-là seulement sur des explosions et des slums.
C'est assez ironique. On commence à parler de pirates par parler de gros budgets, mais aussi, j'aimerais ça parler du code figure qui est arrivée avec le récent Pirates des Caraïbes, notamment justement quand, juste avant que le film paraisse au cinéma, des pirates informatiques ont volé une copie du film et menaçaient Disney de publier ça en ligne.
Vraiment?
En échange d'argent, donc ils faisaient un peu du blackmail, donc ils disaient « Oh, on a une copie de Pirates des Caraïbes, donnez-nous de l'argent, ou sinon on va la sortir en ligne avant que vous puissiez sortir le film au cinéma. » Fait qu'il y a déjà une tension ici entre espèce de représentation un peu célébrée du pirate à la Disney, où il y a Johnny Depp qui a juste l'air d'un vieux mononcle saoul qui fait des jokes, puis moi pour vrai j'en ai ma claque de Johnny Depp.
Il est de moins en moins drôle, je suis un peu tanné de Johnny Depp qui joue Johnny Depp là.
Ouais, il est phoning,
ce qui est pas mal rendu là de toute façon au stade du mononcle saoul.
Mais il y a toute cette idée-là que du pirate informatique moderne, mais ça vient de plus loin que ça, parce que la piraterie,
c'est plus l'acte d'adhérer aux valeurs des pirates. Le piratage, c'est l'acte de commettre les actions. Ben, en fait, c'est commettre les actions telles qu'un pirate le ferait.
Ouais, OK.
Mais c'est davantage une idée, un concept des actions que juste des messieurs sales sur un bateau.
Absolument.
De l'or, là. Il y a en plus une idée qui essaie de survivre derrière ça. Puis, dans les œuvres de fiction sur les pirates, depuis qu'elles existent et depuis que les personnages historiques existent, parce que toutes ces œuvres de fiction-là viennent d'une mythologie qui a été créée à partir de gens qui ont réellement vécu. Donc, toute cette idée-là essaie de survivre encore aujourd'hui dans des œuvres de fiction et dans des actes de personnes, justement, sur Internet, de hacking, partie pirate et compagnie. Mm-hmm. Donc, c'est plus l'idée de la piraterie qui est importante que la façon dont on l'esthétise à la télé, ou qu'on essaie de projeter une image de cette idée-là. Là. Mm-hmm. Donc, c'est l'idée qui doit survivre, d'abord et avant tout.
Mais en même temps, je trouve que actuellement, on a une représentation qui est beaucoup moins assoiffée de sang, qui est beaucoup plus... Oui. Tu sais, c'est ça, Johnny Depp est beaucoup plus un héros d'honneur.
Surtout que depuis que Pirates des Caraïbes est paru en 2003, donc c'est le premier film, après beaucoup de batailles, parce que en fait, Disney voulait pas sortir le film. Il y avait le scénario depuis 1993, il voulait pas sortir le film, disant que ça avait pas pogné. Mm-hmm. Puis au moment où ce que le film est sorti en 2003, on a vu une recrudescence des thématisations, surtout de livres pour enfants ou de films pour enfants, de pirates. Donc nécessairement, le pirate, c'est devenu quelque chose de plus amical, de plus... C'est une figure qu'on veut rendre attachante, mm-hmm. qu'on veut rendre gentille. Puis ça fait penser à une image qui circule un peu sur Internet avec les memes et tout. C'est un truc pour enfants. Il y a un pirate. Fait comment un bon pirate ne vole pas les objets de ses amis. C'est comme, t'as pas vraiment compris c'était quoi le principe derrière le pirate, mais OK, c'est rendu juste un thème.
Ben, plus ou moins, c'est là-dessus. Puis je vais utiliser Black Sails pour pouvoir argumenter par rapport à ça. C'est que, effectivement, un pirate ne vole pas les choses de ses amis. Un pirate, je trouve que c'est très bien représenté, mais c'est aussi, on entend de plus en plus parler de cette manière-là, le pirate ne fera jamais rien pour mettre en danger son vaisseau. Donc, tout le monde, puis, tu sais, là, toute cette idée-là qu'un pirate va comme virer fou pour aller pour démolir le vaisseau de l'autre, ça aussi, ça a été démenti, parce qu'un pirate, d'abord et avant tout, qu'est-ce que ça essaie de faire, c'est de limiter les dégâts. Parce que ces dégâts-là sont extrêmement dangereux. Quand tu as une petite brisure sur un bateau, ben tu mets en danger absolument tout le monde. Fait qu'il y a des trucs comme... j'ai appris récemment que Barbe Noire... Mm-hmm. Ce qui faisait que Barbe Noire avait pris cette épithète-là, c'est qu'il se mettait des petits, essentiellement des têtes d'allumettes dans la barbe.
Il les allumait,
pour quand il faisait des embuscades. Donc, il avait littéralement une grosse tête de fumée noire. Et que les pirates étaient des grands metteurs en scène, des gens qui se rebiffaient d'une terreur et bon, qui créaient des mythes autour de leur propre danger et de leur propre violence pour faire en sorte que le combat ne soit jamais enclenché. On ne veut pas avoir une bataille avant.
Une séance d'intimidation avant d'attaquer ou de provoquer justement les attaques. Il y avait toute une éthique aussi de... On pouvait pas attaquer si on n'avait pas provoqué, on pouvait pas attaquer par surprise un autre bateau pirate, là, par exemple.
Oui, et ça échappe un peu à la conception classique, si on peut dire, du pirate, puis elle revient tranquillement.
Mais en fait, je sais pas de quelle conception classique tu parles, parce que chaque œuvre de pirate que j'ai consultée reprend toutes ces choses-là. Peut-être pas Pirates des Caraïbes, parce qu'il y a beaucoup de destruction de bateaux là-dedans, là, mais toutes les notions de partage, d'amitié, de solidarité entre
de
pirates.
De communauté, là.
Contre une... en fait, Pirates des Caraïbes, c'est le meilleur exemple pour parler de ça, parce que je sais pas si vous les avez vus, mais dans les histoires, surtout les trois premiers films, c'est la fin de l'époque pirate dans les mers des Caraïbes, donc en Occident, parce qu'en Orient, ça a continué même au 20e siècle, mais en Occident, donc, et les pirates essaient de se battre contre cette nouvelle société moderne-là qui veut les contenir, qui veut les détruire, qui veut mettre des lois sur les mers, donc tracer les cartes, séparer les territoires, donc ils ne pourraient plus faire la piraterie. Puis c'est vraiment une histoire de résistance contre ce monde moderne-là qui essaie de les envahir, et une espèce de résistance de l'aventure, de la liberté, toutes ces notions-là qui sont très, très importantes à la figure du pirate.
Mais c'est incroyable, c'est ça.
Mais ils ont finalement pas réussi, là. Si on regarde, tu sais, je veux dire, au final, c'est les trois premiers Pirates des Caraïbes, mais le troisième film, bon, il y a une bataille épique entre, la mer en tant que telle, qui est représentée sous la forme de Davy Jones, qui veut, tu sais, que la mer lui appartient, ça appartient à personne.
En fait, c'est Calypso, c'est la déesse de la mer.
Les Britanniques, les pirates, mais au final, si on regarde ça, je veux dire, la piraterie n'a pas gagné là, dans les films suivants.
En fait, spoiler, est-ce que tu comptais les écouter?
Éventuellement, mais c'est pas...
On va spoiler le dernier film, parce qu'on est retourné le voir tantôt en plus. Là, en fait, à la fin du cinquième film, le dernier film qui est en ce moment au cinéma, donc l'histoire, c'est on essaie de trouver le trident de Poséidon. Okay. Le trident qui renfermerait... Parce que Pirates des Caraïbes, contrairement à toutes les autres histoires de pirates, c'est une grosse part de fantastique, donc il y a beaucoup de magie et qui est tout relié au curse, donc aux malédictions. Et le trident de Poséidon posséderait donc la capacité, en fait, toutes les malédictions de la mer seraient enfermées dedans, et en détruisant le trident, ça enlèverait toute la magie donc qui est reliée à la mer, et toutes les malédictions seraient levées. Donc à la fin, c'est un peu la quête du dernier film, puis à la fin, ils détruisent un peu cette magie-là, et pas mal, presque tous les pirates, sauf encore une fois, Jack Sparrow n'est pas encore mort.
À ton grand désarroi.
Mais c'est ça, ça sonne un peu le glas de la piraterie tel que ce monde-là le connaissait avant. Là. Donc, il n'y a plus la magie, il n'y a plus les malédictions, il n'y a plus toutes ces choses-là.
Il n'y a plus la fantaisie, puis les mythes et les légendes qu'ils se construisaient eux-mêmes.
En fait, il y a de plus en plus de pirates qui meurent. Fait qu'à la fin, il reste quasiment juste Jack Sparrow. Là.
Ouais, Jack Sparrow, puis son second avec la barbe fournie. Je me souviens plus de son nom, mais en fait, justement, on parlait de la fin de la magie, de l'image fantastique de la piraterie, puis il y a cette vision-là un peu aussi dans Pirates des Caraïbes, parce que deux personnages complètement insignifiants, mais n'empêche qu'ils sont là. Il y a le protagoniste, on peut dire, qui est le fils de William Turner, qui était l'un des personnages principaux des trois premiers films.
Elizabeth Swann puis William Turner.
C'est ça. Et ce personnage-là essaie de lui croit à tout ce qui est malédiction, légende, mythe de la mer.
Ouais. C'est vraiment un nerd, il connaît tous les mythes qui sont reliés à la piraterie. c'est vraiment cool de voir un personnage geek de pirate dans un film de pirate.
Puis il est good looking en plus, donc c'est de la fiction totalement.
Il est correct,
là. et là, de l'autre côté, t'as l'autre personnage qui est une orpheline, mais qui est astronome, mais qui croit à la science, tout ça. Et là, il y a le combat éternel entre la réalité et le combat éternel.
Le rationnel, le tangible et la magie. Donc, elle ne croit pas aux fantômes, elle ne croit pas que les morts reviennent sur Terre. Elle croit pas
au final, je veux dire, elle finit par croire aux fantômes, aux requins zombies, à tout ça, mais, ça finit par être le tangible qui gagne, là, parce qu'à la fin, il n'y a plus de piraterie épique avec des combats dans un tourbillon et autres trucs du genre. Je veux dire, c'est fini. La piraterie fantastique, au sens où on l'entend, en fait, la piraterie n'existe plus depuis le troisième film. Puis à partir du cinquième film, n'existe plus de manière fantastique.
Ça détériore, mais c'est vraiment, c'est fini. Point de suspension, mais point d'interrogation.
C'est les Mulder et Scully des hautes mers, là, ce que vous êtes en train de me dire.
Oui, exactement.
Il y a comme ce... C'est drôle, parce que...
En fait, j'ai l'impression que s'ils font un sixième film de Pirates des Caraïbes, même si les studios et les producteurs et tout ça ont dit qu'ils ne feraient plus de Pirates des Caraïbes, mais bon, c'est de la merde.
En même temps, il y avait la scène après le post-credit scene.
Oui, mais là, on va pas spoiler ça en plus, mais n'empêche que c'est sûr qu'il va y avoir d'autres films, mais j'ai l'impression que ça va dégénérer puis que Jack Sparrow va avoir un bateau dans l'espace. Je sais plus.
Non, moi, j'ai juste qu'on mette Johnny Depp dehors, parce qu'en fait, ouais, c'est ça. Il y avait des histoires, je sais pas si c'est vrai, mais c'est des rumeurs disant que au début, c'était la vilaine du film, c'était supposé être une femme. Okay. Puis, fait de pression pour que ce soit pas une femme.
Ah.
C'est un peu un asshole.
Ah, c'est lui? Ouais, c'est ça. Il y a quand même des précédents historiques qui font en sorte que Johnny Depp n'était pas quelqu'un à garder avec lequel on devrait être confortable dans une pièce.
On est très loin de 21 Jump Street.
Ouais, effectivement. Mais c'est très intéressant parce que il y a toujours ça quand on prépare une émission. Il y a comme un truc d'actualité qui pop-up que tu fais comme « Ah, t'as-tu entendu parler qu'est-ce qui s'est passé avec le ride? »
Ouais, le manège à Disney. Ouais, c'est ça. Ils ont annoncé officiellement qu'ils allaient enlever la partie des animatroniques qui avait une espèce de vente aux enchères de femmes. Mm-hmm. Ce qui est une bonne chose.
Ce qui est une chose extraordinaire.
Mais je m'en suis jamais aperçu. C'est bizarre parce que, je veux dire, j'étais allé à Disney deux fois dans ma vingtaine, donc c'est quand même assez récent, puis je m'en suis jamais aperçu.
Ouais.
Attends, la dernière fois qu'on est allé, c'était en 2015. On n'avait pas encore ce regard-là que, mettons, aujourd'hui, en 2017, on peut plus...
Je dois avouer que je cherchais juste Jack Sparrow, là, fait
Il est-tu dedans?
Ouais, il est dedans. Ils l'ont rajouté après le film de 2003, je pense. Okay.
Parce que c'est important de le dire, ce manège-là fête son 50e anniversaire. Ouais. C'est quand même extraordinaire. C'est
quelque chose.
C'est ça, pour avoir une pièce emblématique de Disney, ça en fait définitivement partie. Aussi, le truc qu'il y a une des animatroniques qui va être récupérée pour devenir une pirate.
Ah oui, ça, je savais pas.
Donc, ils changent le décor.
Mais c'est la rousse.
Oui, c'est la rousse.
C'est la rousse.
Ouais, effectivement. Parce que la chef ingénieure de ce manège-là, ou de cette section-là, exactement, c'est sa préférée à elle. Elle a dit, non, moi, la rousse a toujours été ma préférée, ça fait que je vais la retaper pour qu'elle ait des mouvements plus piratesques. On va la rhabiller, puis je l'intègre dans le grand canon des pirates de Disney. C'est vraiment cool.
Mais n'empêche que Pirates des Caraïbes, on a beau chialer, puis même si je dis que je suis tanné, j'aime ça, là, c'est comme mon plaisir coupable, comme Rapide et dangereux. Mais
Rapide et dangereux, c'est meilleur.
Oui, définitivement.
Mais au début du cinquième film, ils ont vraiment... Il y a une scène, c'est
Rapide et dangereux.
C'est dans le cinquième, quand ils volent le coffre-fort, là, c'est exactement
la même scène.
Avec des chevaux, puis
tendu.
Une banque.
C'est ça. Mais je veux dire, au moins... adapté, on a beau dire que depuis 93, les studios ne voulaient pas que ce film-là sorte, tout ça. Mais c'est quand même un gamble faire un film basé sur un manège. Puis on peut se compter chanceux que...
C'est pas Tomorrowland.
Ouais, Tomorrowland, c'est un flop total. Mais bon, c'est mon commentaire sur...
Ouais.
Faire un film basé sur un manège, ça marche pas toujours.
Mais c'est d'abord et avant tout parce que c'est effectivement... c'est un staple historique, là, c'est un fait historique bien connu que la grande crainte, c'était le film de Rennie Harlan qui s'appelait Cutthroat Island, j'en ai parlé un peu dans l'introduction, c'est Matthew Modine qui jouait le personnage principal, Gina Davis, puis il y avait Frank Langella dedans. Le truc, c'est que Cutthroat Island, c'était une méga production qui avait été assurée par Carolco, qui était le studio qui a fait Robocop.
Okay.
Qui avait les reins extrêmement forts, excusez.
C'est... Les seins forts, OK.
Il avait les seins forts.
Ça a été dit aujourd'hui, épisode 141, on retient ça.
Exactement. ça arrive. Les reins extrêmement forts à cette époque-là, puis c'était une compagnie qui était vraiment lousse par rapport à les réalisateurs. T'sais, on disait, c'est toi qui as la vision, on va vous donner l'argent derrière. Puis Cutthroat Island, notamment à cause des scènes de tournage en mer, toutes les qui doit être fait, tous les bateaux qui doivent être montés, ainsi de suite. Ça a été une énorme entreprise financière et ça a floppé, ça a tué le studio. Puis depuis ce temps-là, je pense que c'est ça qui a fait... Ben, en fait, il n'y avait plus... Le mot pirate apparaissait plus au cinéma hollywoodien parce qu'il y avait
c'est
tellement...
C'est en quelle année, ça?
Cutthroat Island, c'est début 90...
OK, c'est pas long, c'est ça.
95.
Moi, ça me dit tellement rien,
ils ont
en plus.
Eu le scénario en 93. Donc, si, avec ce qui se passait... Mais en même temps, il y a quelque chose avec les pirates que c'est un peu intrinsèque aux sociétés modernes telles qu'on les connaît aujourd'hui. C'est l'idée, justement, de la liberté, de l'aventure, de sortir du quotidien. Puis c'est pas une idée nouvelle. Puis c'est pas non plus... C'est pas sorcier pourquoi Pirates des Caraïbes a marché, puis peut-être pas ce film-là. Parce que Disney joue sur l'émerveillement, ouais. Sur l'aventure, sur l'exotisme, qui sont toutes comment je pourrais appeler ça? Des choses, là.
Leurs valeurs.
Des valeurs, ouais. Vraiment... Mais c'est intrinsèque justement au roman d'aventure tel qu'il existait au 19e siècle. Puis c'est quelque chose d'ancré en nous parce qu'on vit dans une société qui est très restrictive, qui est très... Il faut travailler, il faut avoir des familles, il faut faire du 9 à 5. Donc, c'est ce genre d'univers-là nous émerveille.
Ouais, c'est une fantasmagorie idéale. Là, ouais.
Fait que c'est sûr que cette idée-là pourra jamais mourir dans une société telle qu'on la vit en ce moment. Mm-hmm. Donc, que ce soit Pirates des Caraïbes ou quelque chose d'autre, ou Indiana Jones ou... Peu importe.
Oui, mais même au-delà de ce que tu es en train... J'ai trouvé ça super intéressant ce que tu disais par rapport à la fin de la piraterie avec l'émergence de frontières stables. Mm-hmm. On a eu, puis bon, je veux pas faire du causal ou ce qu'il n'y en a pas immédiatement, mais l'émergence du web comme étant un lieu qui n'avait pas de ces frontières-là, resurgence du terme pirate dans le web, je trouve ça quand même...
C'est un océan qui n'était pas balisé. Donc.
C'est ça, puis retour à cette liberté-là, puis dès que les gens se mettent à empiétrer sur les territoires des autres, dans le cyberespace, on les traite de pirates, fait qu'il y a comme... Je pense pas qu'il y a une si grande coïncidence, je voudrais pas faire l'œuf et la poule par rapport à ça.
Mais avec ça, il y a de quoi à comprendre, en fait, parce que j'ai l'impression que la piraterie, c'est un peu comme c'est des précurseurs, c'est des personnes qui essaient des choses, qui ont compris des choses avant que le commun des mortels comprenne quoi que ce soit. Donc, les pirates, eux, ont compris des choses, de la navigation, pouvoir aller à des trucs, lire des cartes.
C'est des précurseurs, mais c'est aussi très punk comme idéologie.
Oui, c'est ça. Puis la piraterie, c'est la piraterie informatique, c'est un peu la même chose. Je veux dire, c'est des gens qui ont compris comment naviguer dans le web, comment rentrer dans la vie privée des gens, comment, genre, partager des connaissances qui étaient auparavant seulement destinées à une seule personne ou un groupe restreint de personnes. Puis des fois, un peu comme on a pu le voir justement dans Pirates des Caraïbes ou dans d'autres récits imaginaires dont le thème principal est la piraterie, c'est que au final le gouvernement soit détruit ces pirates-là ou les engage pour justement leur permettre d'évoluer leurs propres connaissances. Mm-hmm. C'est un peu la même chose avec la piraterie. Il y a des cas notables de pirates qui sont devenus genre des pros de la sécurité informatique qui travaillent chez Google ou des trucs du genre. Fait que c'est un peu le même principe, je veux dire. Les pirates, c'est des gens qui ont une longueur d'avance sur nous, carrément.
Et c'est effectivement le cas avec la plus importante pirate de l'histoire, que je voulais faire une chronique, mais j'ai littéralement pas vraiment eu le temps d'être capable de la façonner, mais tu t'ouvres la porte parfaitement bien à cette personne-là qui s'appelle Chinsey, qui a été une pirate qui est née en 1775, morte en 1844, l'épouse d'un grand pirate qui a fini par reprendre les opérations à la suite du décès de son mari au Vietnam. Pas à la guerre du Vietnam, mais dans le territoire du Vietnam.
Mais c'est pas vraiment la même époque.
I'm just checking.
C'est une pirate temporelle.
Et qu'elle a, comme à la hauteur de sa carrière, elle mobilisait 3000 vaisseaux et 40 000 pirates étaient à sa commande. À un point, elle était devenue si dangereuse et maniait un pouvoir si grand que l'Empire chinois a payé pour acheter son armée.
Wow.
Ils ont fait qu'on peut... On, malheureusement, c'est toi qui mobilises les eaux. On ne peut plus te payer une dot à chaque fois qu'on veut être sur l'eau. Ça fait que, tiens, on va...
acheter.
On t'achète, on essaie de te, on t'assure une pension, puis s'il vous plaît, arrête. C'est une, non, mais c'est fou comment que c'est une femme qui était à pour cette frégate-là, je pense que c'est comme ça qu'on dit, qui était à la
c'est une flotte.
C'est une frotte.
C'est une flotte. Frégate, c'est une sorte de bateau.
Ouais. Merci.
J'ai appris mes connaissances de bateau dans Assassin's Creed Black Flag, donc j'ai aucun mérite pour elle, mais...
Et elle apparaît, si je ne m'abuse, elle est dans le troisième Pirates des Caraïbes.
Ouais. Ouais, c'est ça. À la fin, quand ils font
le conseil des pirates.
Conseil pour libérer Calypso.
Avec Keith Richards.
Oui, Keith Richards, qui est le père de Jack Sparrow.
Dit-on.
Ouais.
Mais il y a aussi
Paul McCartney qui est son oncle, mais bon, ça c'est
pas sérieux. Il y a un caméo de Paul McCartney. C'est quand même très drôle. J'ai trouvé ça très adhérent. Mais oui, il y a Mistress Ching, comme elle s'appelle, dans Pirates des Caraïbes, donc il donne pas son nom complet. Puis elle fait peur, là.
Ah ouais?
Oh oui, mais c'est ce moment-là du film aussi, ça fait penser à ce que tu disais au début, comment créer leur propre mythologie et comment créer leur propre personnage. Parce que tous les personnages sont très, très... ils ont beaucoup de caractère. Donc, tu sais, elle a son maquillage, puis elle a ses yeux fâchés, puis son costume. Il y a un pirate français avec sa grosse perruque. Puis
ouais, son maquillage à la Molière. Ouais, c'est très, très Versailles, c'est ça.
C'est vraiment beau à voir, là. Mais moi, j'aimerais ça enchaîner, justement, parce que
je t'en prie.
Il y a aussi... il n'y a pas juste elle qui était une femme pirate, mais il y en a quelques-unes. Mm-hmm. Puis je faisais des petites recherches avant de venir aujourd'hui, puis j'ai replongé dans le livre de 1724 du... Captain Charles Johnson, donc c'est un pseudonyme, là. On sait pas qui a écrit ce livre-là pour de vrai, mais qui faisait la bio. En fait, le titre au complet, je vais vous le lire, pardonnez mon anglais. Donc, c'était A General History of the Robberies and Murders of the Most Notorious Pirates. Donc, c'était une biographie des pirates qui, lui, était contemporain.
Ton anglais, je suis pas correct.
Correct. Oh, mais des fois, je m'en fâche, fait que j'aime mieux avertir. Donc, c'est vraiment le livre paru en Angleterre qui a formé la façon dont on imagine les pirates, donc la conception classique. Donc, là-dedans, il y a la conception des pirates, il manque un œil, il manque une jambe. Et il parle, c'est là aussi, pour la première fois, qu'il donne le nom du drapeau, le Jolly Rogers, donc le drapeau noir avec la tête de mort. Puis, il mentionne beaucoup, beaucoup de noms de pirates, dont certaines femmes... notamment Anne Bonny qui apparaît dans Black Sails et dans Assassin's Creed Black Flag. Donc il y a vraiment toute cette histoire-là de pirates qui revient souvent sur sa propre mythologie, en fait, souvent, qui revient inévitablement sur sa propre mythologie parce que toutes les histoires de pirates finissent par se référer à une figure ou une légende ou un mythe qui a déjà existé. Donc, il parle notamment de Barbe Noire dans ce livre-là. Donc, le drapeau, évidemment. Il y a aussi toutes les histoires de trésors cachés, donc qui motivent à peu près toutes les sequels de Pirates des Caraïbes. Mm-hmm. Donc,
ils ont fait le tour.
Ils ont fait le tour. Il n'y en a plus, des trésors. Mais c'est ça aussi qui brise la magie. C'est quand on apprend qu'il n'y a plus de mystères, il n'y a plus de trésors cachés, il n'y a plus de mythes à révéler. On dirait que toute cette imaginaire de la piraterie perd de son charme. C'est ça qui est triste aussi. Puis c'est contre ça que les pirates essaient de se battre.
Ouais.
C'est d'essayer de retrouver justement des trucs cachés, des secrets. Donc, pour les pirates informatiques, tout ce...
ben,
ces secrets-là, ces mystères qui réenchantent le monde parce qu'ils restent à découvrir.
Il y a du nouveau territoire.
Exactement.
C'est pour ça qu'il faudrait que ça se finisse dans l'espace.
Et voilà.
Ouais.
Space Pirates.
Mais c'est ça le problème de Pirates des Caraïbes. En fait, les trois premiers, ça parle d'une mythologie, mais qui est plus ou moins connue. Je veux dire.
David Jones est là,
mais c'est pas si représenté que ça. Mais les deux derniers films, je veux dire. Le Graal, non, c'est la fontaine de Jouvence.
La fontaine de Jouvence.
Puis le trident de Poséidon. Je suis comme à un moment donné.
Ouais. Tu sais. Mais c'est ça, il y a eu tous ces noms-là qui reviennent. Donc, Black Sails, c'est un prequel à L'île au trésor de Stevenson. Je connais pas beaucoup Robinson Crusoe, mais il y a des gens qui pensent que le Captain Charles Johnson, qui écrit la biographie, ça pourrait être Daniel Defoe.
Ah,
donc, ça pourra jamais le prouver, mais il y a des rumeurs qui diraient
que ça pourrait prouver.
Ça
pourrait retrouver. Mais c'est drôle parce que en incluant Robinson Crusoe, t'allumes comme t'as un truc assez intéressant par rapport au récit de pirates. Il y a toujours le récit classique et souvent il y a un récit de perversion.
Oui, mais c'est... en fait, c'est le récit classique, c'est le récit de perversion. C'est Long John Silver qui arrive et qui pervertit l'enfant.
Ah oui, non, mais je parle c'est... comme littéralement dans Robinson Crusoe, t'as Vendredi ou les Limes du Pacifique de Michel Tournier.
Ah oui, c'est vrai, okay, ce genre
t'as récit-là. Comme la version trash, puis je sais que t'avais trouvé la version trash de...
Ben, en fait, c'est une autre histoire de pirate, donc c'est le de Pierre McCurlan, À bord de l'étoile matutine, c'est un livre trash sur la piraterie qui a été publié un petit peu après L'île au trésor de Stevenson. Donc, une trentaine d'années plus tard, là, environ. Fait que c'est, il y a ça, il y a Stevenson qui nous raconte une histoire. Donc, c'est une histoire d'un enfant qui rencontre des pirates. Et l'étoile matutine, en fait, c'est une histoire de pirates. Puis on rentre vraiment dans ces univers-là. Puis c'est vraiment très trash parce qu'on rentre dans la pauvreté de l'univers pirate. Donc, de la violence, des meurtres. Et les enfants là-dedans, ils sont pas du tout comme l'enfant de L'île au trésor. Ça n'a pas du tout rapport. Là. C'est les enfants, c'est les êtres les plus pervertis parce qu'ils tuent. Sans vraiment
comprendre ce que c'est l'amant, ce que c'est le meurtre.
Ouais. En fait, ils s'en foutent, c'est
ouais,
ça.
C'est ça.
Parce qu'ils sont nés là-dedans. C'est vraiment, ouais.
Aïe, aïe.
Mais il y a aussi, dans les récits de pirates, il y a beaucoup cette dichotomie. Ben, pas une dichotomie, mais il y a beaucoup de récits figure paternelle, enfant. Donc, l'enfant qui comme... je me souviens plus jamais de son nom, l'enfant de L'île au trésor. Mais en fait, il y a Long John.
L'enfant,
le...
oui.
Ouais, oh,
oui.
Le kid. J'ai oublié c'est quoi son nom.
Je vais te le trouver.
Captain Kidd.
Ouais, c'est ça, Jim Hawkins. Donc, qui rencontre Long John Silver, puis qui se fait un peu initié par lui au monde de la piraterie. Il y a, dans le premier Pirate des Caraïbes, on a Will Turner qui rencontre l'espèce de figure paternelle qui devient Jack Sparrow. Là. Donc, et éventuellement, il va rencontrer son vrai père, qui est un pirate. Et dans le dernier Pirate des Caraïbes, il y a encore cette histoire-là de la jeune orpheline qui rencontre son vrai père.
Qui est un pirate.
Qui est un pirate. Donc, il y a beaucoup de figures paternelles qui rentrent en relation là, dans ces histoires-là. C'est quand même un sous-texte très important. Et ça, et le sous-texte qui est très propre au roman d'aventure en général, c'est l'opposition entre le monde... du quotidien et le monde de l'aventure, donc le monde de la famille et le monde du célibat et de l'aventure et de la violence. Là.
Je vais sauter un peu sur cette idée-là de justement la première position, la figure paternelle ou la figure de la famille. Je veux dire, j'étais initié à la piraterie ou peu importe par mes aïeuls ou peu importe. Puis de l'autre côté, justement, le monde de la famille, puis le monde justement le foyer versus le monde public. Puis un peu. Je me sens pas vraiment mal de spoiler, mais il y a un peu ça, un peu dans le quatrième Uncharted. En tout cas, c'est un peu bizarre que je parle de ce jeu-là dans la piraterie, mais en fait, la piraterie est au centre de cette série-là, mais particulièrement dans le quatrième opus, parce que bon, on cherche un trésor de pirate, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que.
Drake's Treasure ou l'enfant
d'amour? Ouais, en fait, c'est A Thief's End. Donc, c'est la fin d'un bonheur.
OK.
Et en fait, on apprend au travers des chapitres, particulièrement dans la moitié du jeu, que premièrement, Nathan Drake, c'est pas son vrai nom. Je dis Nathan, c'est son prénom, mais Drake, c'est pas son vrai nom. Et qu'en fait, ses parents, c'était des archéologues, des vrais explorateurs, des archéologues qui avaient des subventions, c'était des professeurs, tout ça.
Okay.
Et lui, c'est drôle parce qu'il s'est écarté de ce chemin-là. Je veux dire, c'est un chasseur de trésors, ni plus ni moins, qui est coquille, qui tue trop de monde, même si au final il dit qu'il protège, ben il finit par sauver le monde,
le trophée, c'est dans le quatrième qu'il y a
ouais
le trophée?
Ben en fait dans le quatrième dans le quatrième opus il y a un trophée
achievement.
C'est un achievement, ça s'appelle dissonance ludonarrative. Donc c'est carrément en fait
c'est quand tu tues 1000 personnes,
c'est quand la dissonance ludonarrative, c'est un concept je me souviens plus de l'auteur qui a sorti ce terme là mais c'est quand les actions ludiques n'ont aucun sens avec le récit narratif en soi. Donc Nathan Drake qui se dit le bon gars qui finit par sauver des milliers de personnes mais ce que je voulais dire, c'est que justement il y a des gens innocents qui sont initiés vers le monde de la piratie, et on a un peu ce renversement-là dans Uncharted, parce que Nathan Drake, au final, a le choix entre poursuivre sa quête de la piraterie, sa quête de fortune, ou délaisser tout ça, et ben, en fait, poursuivre sa quête de fortune et de trésor et finir par mourir et sacrifier tous ceux qu'il aime et quitter ce monde-là et faire un homme respectable de lui. Ce qui fait finalement, bon, c'est
la fin. Retourner dans l'ordre symbolique du monde.
Ouais, exactement.
donc, c'est A Thief's End, en fait, c'est ça, c'est la fin d'un voleur, mais c'est la fin de son côté voleur, justement. Il s'écarte de ce chemin-là, il va vers le droit chemin. Mm-hmm. Et il s'en rend compte, en fait, parce que dans le quatrième Uncharted, Nathan est à la recherche de Libertalia, qui est une cité mythique. Moult fois mentionné dans la mythologie pirate, donc qui est une utopie en fait que tous les pirates se réunissaient, partageaient leurs richesses, tout ça. Mais bon, on apprend en explorant la ville en ruine que ben, finalement personne n'était capable de partager.
Ouais.
Et c'est un régime communiste qui a un peu mal viré, un peu comme les régimes communistes en URSS. Donc tout le monde est égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres. Mm-hmm. On peut dire ça comme ça. Finalement, tous les chefs pirates, parce que déjà en partant ça marche pas, il y avait des chefs pirates, ben, finissent par se trahir et se tuent pendant un banquet.
Oh. Ben, c'est drôle parce que ça fonctionne aussi avec Black Sail. Black Sail se passe sur New Providence Island, qui est comme une île qui est moins une utopie, mais plus comme le lieu de rassemblement à l'extérieur du regard gouvernemental sur comment ça fonctionne, sur le fonctionnement des pirates. Un des personnages centrales sur cette île-là, c'est Eleanor Guthrie, qui, elle, a ce truc-là que tu racontes, Megan, avec son père, parce que son père est la personne qui vient... Ben, en fait, qui est comme le tenancier de l'ordre. C'est la personnalité assez menaçante pour que tout le monde se comporte dans la place. Et
C'est comme le père de Jack Sparrow dans le 3e Pirates des Caraïbes.
C'est comme Keith Richards.
C'est en gros, il s'assure, lui, sa présence est assez imposante pour que tout le monde sur New Providence Island se calme. Mais en même temps, Eleanor Guthrie, elle est son actant. C'est elle qui est le remplacement symbolique. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? C'est la personne qui achète les butins. Puis je trouvais, bon, en me sentant fois trop rentré dans Black Sail, comme j'entrerai pas trop comme je n'ai pas trop rentré dans Chinsing, qu'est-ce qui est très intéressant et qui a attiré un peu l'ire ou que les gens étaient un peu incrédules par rapport à Black Sail, c'est que d'abord et avant tout, c'est un truc d'argent. Il y a un comptable sur le bateau qui, lui, sépare le butin et aussi prévoit si les butins sont profitables ou non. On calcule à la fin les décès, on calcule la redistribution de la part, et ainsi de suite. Puis on dit, bon, il y a un butin principal que tout le monde met de l'argent dedans pour réparer le bateau. Ça, c'est la responsabilité de tout le monde. Et ensuite, tout le monde a des parts. Peut-être que le capitaine en a deux, tout dépendant de comment ça fonctionne. Eleanor Guthrie, elle, c'est la personne qui vient acheter le reste. Donc, le butin, quand il doit être récupéré, ben, quand il est déposé sur l'île, il l'est acheté. Puis c'est là où l'argent, elle est faite. Ce qui fait que les pirates dans cette série-là, puis je trouve que les pirates tels qu'on les voit maintenant avec les éclaircissements historiques sont beaucoup moins ces personnages-là que je racontais en introduction.
Sanguinaires,
capitalistes,
sans foi ni loi, ouais, c'est ça.
C'est vraiment plus des gens qui on s'occupe de nous-mêmes. C'est entre nous. Puis la télésérie commence sur un truc qui a pratiquement l'air d'une plénière. Là. C'est tout le monde dans la cale qui... en conversation, discute de la voie à prendre, est-ce qu'on arrête...
C'est une assemblée générale.
Là. Exactement. C'est littéralement une assemblée générale. Et ça fait en sorte que Black Sails a cette idée-là que tous les bateaux sont en autarcie totale, mais sont, comme tu disais, comme un espèce de communisme... Bon, toi, tu dans Uncharted, c'est plus...
Ça vire ruiné carrément, mais...
Mais là-dedans, ça fonctionne. Tout le monde est ensemble. Ben, ça fonctionne dans certains cas. Là, il arrivera des moments où il y aura des trahisons de l'équipage contre des mutineries, ainsi de suite. Mais d'abord et avant tout, c'est... On est ici pour s'assurer du meilleur pour tout le monde qui est dans le bateau. Il n'y a pas de hiérarchie, sauf, bon, évidemment, le capitaine et certaines dirigeants. C'est ça. Il y a une autorité, mais il n'y a pas de hiérarchie. Et... En même temps, il y a l'ambition de se sortir de ça. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que on veut être riche pour ne plus avoir à faire ça. C'est pas une vocation.
C'est ça.
C'est temporaire.
Mais ça ressemble un peu à Uncharted dans le sens que en fait, tu parlais d'autarcie. Oui. Chaque bateau est une communauté, en fait.
Oui.
Puis ce qui est mis de l'avant, en fait, c'est l'esprit de communauté. C'est justement, on va s'en sortir, mais ensemble. Il n'y a pas de truc de chacun pour soi. OK, chaque bateau pour soi, mais un bateau, c'est une communauté. C'est un village marin, naval, peu importe comment tu l'appelles. Et c'est à l'intérieur, ben, chaque membre de l'équipage, même si le capitaine a une certaine autorité, ben, c'est le maillon d'une chaîne qui va aller vers la destination de se sortir de la piraterie, puis d'éventuellement ben, faire, devenir fermé ou peu importe. Puis c'est un peu, dans Uncharted, en fait, ce que ça met de l'avant, c'est que tu peux pas seulement penser pour toi. Parce non. que si tu penses seulement pour toi, ben, tu vas finir par mourir tout seul autour d'une table. Puis c'est ça qui est mis de l'avant, en fait, c'est que Libertalia, c'était une utopie, mais comme toute bonne utopie qui se respecte, ben ça finit par virer en dystopie parce que il y avait des certains capitaines, mais justement en fait cette idée de communauté là était pervertie par les ambitions un peu égoïstes des capitaines pirates. Donc c'est vraiment ça en fait, c'est l'idée de communauté ne doit pas être brisée. Puis c'est probablement pour ça en fait que Pirate Bay, bon, on saute un peu du coq 40, mais Pirate Bay tout ça fonctionne pas parce que la communauté, à un moment donné, ben, il y a quelqu'un probablement, je sais pas, là, j'extrapole, je suis paranoïe, bon, je suis fan de théorie du complot, mais c'est probablement pour ça que Pirate Bay
est un modèle non viable.
Est un modèle non viable, parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'est aperçu qui pouvait faire de l'argent avec ça, ou peu importe, au lieu de simplement genre rester au sein de la communauté, de partager des trucs, des torrents.
Mais en général, la communauté fonctionne bien jusqu'à temps justement
que quelqu'un veut faire
ce maillon pas fiable qui décide qu'il veut faire ça pour lui, puis ça dérange. Puis il y a toujours cette figure là de, c'est la meilleure figure, cette espèce de trickster Jack Sparrow qui décide de tout faire pour lui, mais au final ça marche, mais surtout pour lui.
C'est ça.
Il est très très égoïste. Puis c'est un peu pour ça qu'on est tanné de le voir, je pense. Ouais. C'est parce qu'on dit qu'il y a comme une espèce de communauté, puis il y a un monde qui se développe plus en plus, puis lui, il veut rester justement cette vedette-là. Là. Il brise la communauté. Là.
Mais c'est vraiment intéressant, ça, parce que, bon, ne les ayant jamais vus, Jack Sparrow devient le vilain.
Mais c'est vraiment un trickster. C'est un chaotic neutral. Mais en fait, il fait toutes les choses qui vont lui donner avantage. Peu importe s'il doit trahir ses amis ou ses ennemis. Il va trahir tout le monde si c'est à son avantage.
Mais il va détruire.
Mais Jack Sparrow n'a jamais été le protagoniste de la série. Peu importe ce qu'on en dit, c'est genre Jack Sparrow, c'est le connard de service qui permet aux péripéties de s'enchaîner et les protagonistes de faire quoi que ce soit. Peut-être pour le premier, mais les suivants, on s'en fout. Là, je veux dire, les suivants, c'est l'histoire de William Turner qui devient un pirate progressivement.
Mais non, en fait, le troisième, c'est il faut aller le chercher parce qu'il est mort.
Ah oui, c'est vrai.
Ça tourne parce qu'il est plus...
Mais c'est parce qu'encore une fois, c'est pas le protagoniste, c'est qui sert d'outil pour faire...
Ouais, c'est un moteur narratif, c'est un embrayeur.
Mais c'est ça, mais plus la série avance, plus Disney s'est rendu compte que les films ont marché parce que son personnage était bon au départ, puis là, il y en a trop. C'est...
Ouais, comme d'habitude, là, on n'est pas capable de vraiment doser par rapport à ça. Mais je trouve ça, philosophiquement intéressant. T'sais que c'est, effectivement, si tout le monde s'entend à partager les trucs, tout est correct, mais quand t'en as un qui se met à penser à lui-même... Ça foire, tu sais, puis ça foire sur plein de trucs, ça foire notamment par rapport au territoire, par rapport à la survie d'une diversité, parce que le pirate, c'est quand même un style de vie alternatif.
Oh oui,
on peut quand même le dire de cette manière-là. Mais aussi, si on fait l'extension par rapport au Pirate des Caraïbes, c'est la fin d'un imaginaire. Il finit littéralement à détruire.
Mais oui, mais non, parce qu'il y a un thème qui est très, très important à la série Pirates des Caraïbes, c'est le thème de la résurrection.
Ah.
C'est que tout le monde est mort et tout le monde revit incessamment. C'est vraiment parce que le premier, c'est la malédiction, c'est qu'ils sont tous des zombies, puis il faut qu'ils reviennent à la vie. Donc, il y a vraiment toujours ce cycle-là de mort et de résurrection, puis c'est vraiment un sous-texte très, très important à la série, puis je trouve ça intéressant. Cette idée-là de « on va vivre pour toujours, même si on meurt », parce que c'est l'idée de la piraterie qui survit, et non pas les pirates.
Ouais.
C'est vraiment ça, parce que même les pirates du 18e siècle et avant survivent encore aujourd'hui, puis c'est justement en ressassant internellement cette mythologie-là qu'on la garde en vie. C'est pas les individus, c'est la communauté.
Ouais.
Voilà.
Même, je trouve ça extraordinaire ce que tu es en train de dire, mais même l'eau. Oui. T'sais, l'idée qu'on est habitué, à force de dictionnaire de symboles, à considérer l'eau comme la mort. Quand quelqu'un meurt ou quand quelqu'un s'échoue, quand quelqu'un meurt en océan, on n'a pas de corps, on n'a pas de preuves. Même, c'est drôle, encore par rapport aux trucs qui émergent, on a appris aujourd'hui, on a vu une photo d'Amelia Earhart qui déterminerait qu'elle n'est peut-être pas morte en océan. Mais qu'on a cru tellement longtemps, puisque l'avion croisait l'océan. Donc, si l'avion s'écrase, ben, on ne peut ni trouver l'épave. Merci beaucoup. On ne peut ni trouver l'épave, ni trouver le corps. Tu l'as encore, ton vocabulaire.
Je sais.
Mais il y a ça, tu sais, on sait que dans les tragédies grecques, dès qu'il y a quelqu'un qui touche à l'eau, en quelque sorte, il finit par mourir. Il n'y a personne qui se lave dans Homère puis qui ne meurt pas. Tout le monde qui est propre crève.
Oui, mais en même temps, je veux dire, l'équilibre entre la vie et la mort est là. Là, t'sais, bon, on est rendu dans la mythologie grecque. Je pensais pas qu'on se rendrait là, mais Achille est trempé dans les rivières du Styx. Le Styx, c'est une rivière dans l'enfer. L'enfer, c'est le royaume des morts. Mais en même temps, le Styx lui permet d'être immortel ou à peu près, sauf pour son talon. C'est ambigu. T'sais, en fait, c'est un courant marin. C'est une vague. Ça va et ça vient.
C'est tellement
poétique. Mais
on a besoin d'eau pour survivre, mais l'eau peut nous tuer.
C'est ça. Ben, trop d'eau peut nous tuer.
Pirate de Caraïbes peut nous tuer. Pas mal certain.
Non.
C'est votre affaire, moi. Je suis pas plus que ça. Mais c'est ça, je trouve que il y a la possibilité de raconter des histoires, il y a la possibilité d'aborder des trucs assez intéressants avec ces cas de figure-là. Puis il y a quelque chose. Pour moi, c'est pas une coïncidence qu'il y a plus de pirates dans les 15 dernières années avec le climat dans lequel on vit. Même. Sociopolitiquement, tu sais, le capitalisme sauvage fait en sorte qu'on démonise ces personnes-là qui vont dans l'acquisition des gains. Chez les pirates, tu ne peux pas y aller dans l'acquisition des gains parce que, inévitablement, ton bateau n'est pas capable de tenir tout l'or. Et là, tu finis par, comme très poétiquement, couler avec le bateau et te noyer avec tout l'or que tu ne peux pas apporter dans l'afterlife.
C'est tous les mouvements de résistance contre les sociétés. Plus les sociétés deviennent restrictives, plus les mouvements de résistance sont forts et diversifiés. Comme je disais plus tôt, c'est très punk être pirate.
Ben oui.
C'est un mode de vie alternatif, comme tu disais, mais Oui, avant, peut-être dans la mythologie, c'était basé sur la question des trésors, mais on peut se dire que maintenant, aujourd'hui, les trésors, c'est moins l'argent que l'information, par exemple.
Ouais, c'est vrai.
C'est ça. Mm-hmm. Fait qu'on accumule l'information comme on accumulait les morceaux d'or avant. Donc, c'est juste... C'est les moyens et la matière accumulée qui change, mais l'idée, comme je disais au début, reste.
C'est même juste, on pourrait même jusqu'à dire que c'est acquérir des moyens, des objets d'une façon qu'on déplore totalement, mais pour aller vers une autre vie qu'on désire.
Non, c'est bon ça. Tu sais, c'est intéressant d'avoir.
Mais je trouve ça intéressant aussi parce que, pour revenir un peu en arrière, parce que tu disais que dans Black Sails, c'était vraiment un mode de vie en attendant de pouvoir justement se settle down, avoir une famille ou un travail ou peu importe. Mais il y a quelque chose, parce que c'est la version très réaliste, très justement ça se veut près de la réalité, versus Pirates des Caraïbes, que c'est la version très romantique de la piraterie. C'est parce que dans Pirates des Caraïbes, il y a. Il n'est pas question qu'on s'arrête puis qu'on quitte la mer. Là. C'est la vie des pirates, c'est une vie pour toujours sur la mer jusqu'à la mort. Puis de préférence la mort noyée, là. Ou la mort tuée au combat. Il y a comme une espèce d'honneur très romantique dans ces films-là qui sont en plus il y a de la magie, il y a du fantastique. Ouais. Ça veut être de l'aventure, ça veut être on essaie de sortir justement de la vie du quotidien et c'est une production créée par Disney qui veut nous vendre du rêve et de l'aventure et tout ça pour s'extirper de notre vie quotidienne versus la piraterie plus punk, plus justement résistante qui veut vivre autrement que dans une société néo-capitaliste aujourd'hui. Donc, il y a toutes ces deux figures-là aujourd'hui qui s'opposent dans la culture populaire, dans une culture de sous-culture, puis une culture pop industrialisée. Donc, on peut réfléchir justement les pirates aujourd'hui à partir de ces deux visions-là. Une héritée du passé, puis une autre, c'était plus que des mouvements politique, là. Donc,
c'est incroyablement bien dit. Non, c'est ça, c'est exactement à la conclusion à laquelle je voulais arriver.
Quoi qu'il nous reste 12 minutes, mais...
C'est exactement ça, mais c'est ça. Je trouvais que c'était... Ouais. Vous avez, c'est ouais. vous qui avez lancé le sujet, parce que vous avez une fascination actuelle par rapport aux pirates, puis ça, je pense que...
Moi,
C'est
un de mes sujets de prédilection. J'aime vraiment beaucoup les pirates.
Et depuis toujours?
Je sais pas, c'est très récent.
OK,
mais je disais là-dessus aujourd'hui, puis je trouve ça fascinant, justement, de lire, parce qu'il y a quelque chose avec... les pirates, peut-être moins les pirates aujourd'hui, mais avec la vision plus classique d'un décalage puis d'un exotisme qu'on retrouve moins dans des comme moi, ça me fascine là, de voir justement de lire des textes d'une autre époque où il y avait encore des mystères, où il y avait encore de la magie sur la terre, où il y avait des kraken puis des requins zombies.
Ouais, des requins zombies.
Oui, il y a des requins zombies dans le dernier Pirates des Caraïbes. C'est hein? vraiment cool.
Ouais.
OK.
Zombie Shark.
Okay. C'est ça.
C'est d'ailleurs une source d'inspiration pour Sharknado 5.
Ben oui, c'est ça, je me disais, là, il va y avoir... Il y a comme un moment où, sans vouloir déconner, là, les requins vont tourner tellement vite qu'ils vont retourner dans le temps, puis c'est comme ça qu'on va juste...
Sûrement.
Ouais. C'est ça. Mais
c'est ça, il y a un exotisme, mais c'est le propre de l'aventure en général, donc comme thème qui existe depuis quand même longtemps. Je peux aller un petit peu dans la théorie. Donc, c'était Mathieu Letourneux qui avait théorisé l'aventure, et ça s'applique très bien aux pirates, comme un triple décalage, donc un triple exotisme, un exotisme social, donc de visiter des parties de la société qu'on n'est pas familière. Ça peut être, dans Matutine, c'est vraiment les bas-fonds, donc la société plus pauvre. Les pirates, c'est vraiment un mode de vie très différent du mode de vie bourgeois de l'époque. Et l'exotisme géographique, donc on voyage, on essaye d'aller ailleurs. Et l'exotisme temporel, donc voyage dans le temps, mais il y a quelque chose d'un peu... merveilleux de voyager puis d'arriver dans un monde où il y a encore de la magie et il y a encore du mystère, il y a encore des trésors cachés qu'il faut retrouver. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup les pirates.
Oui, mais c'est à ça que je réfléchissais, tu sais. C'est un... Bon, on en a parlé assez souvent, là, tu sais, c'est un vieil imaginaire qui est réactualisé, mais c'est quand même, sans vouloir trop avancer par rapport à ça, c'est comme le dernier folklore européen. Tu sais, parce que là, on parle jusqu'à 19e siècle. Vers le 18e siècle, c'était l'âge d'or des pirates. 18e siècle, c'est l'âge d'or. 19e siècle, c'est à peu près le moment
déclin.
Où ça
c'est
fonctionne.
Le déclin, parce que c'est l'industrialisation.
Ouais. Exactement.
La société moderne, ouais.
Puis l'industrialisation, ben, les grands mythes de l'industrialisation, ben, ils ont commencé un peu en Angleterre, mais après ça, se sont réglés pas mal rapidement vers les États-Unis. Il y en a eu quand même, là. Il y a quand même eu Manchester.
Mais à la limite, on pourrait dire que les coureurs des bois, c'est nos pirates.
Ben, je pense pas que c'est le même rapport au territoire.
Ouais, c'est ça.
C'est pas le même rapport au territoire. Peut-être que les trappeurs, limite, ça serait peut-être plus, mais pas vraiment. C'est juste, tu pars de tout cet imaginaire-là. Bon, le nouveau continent, qui est un imaginaire incroyablement fort. Bon, on en a parlé, l'eau, on a parlé, tout sacré-là pour aller faire quelque chose. Mais après ça, il y a les cowboys.
Ouais, c'est ça. Ouais. C'est la frontière qui se ferme.
Ouais.
Il y a la ruée vers l'or.
Puis le territoire donné.
Ouais,
c'est un territoire qui est limité quand même.
C'est un territoire, mais c'est un territoire infini. C'est un territoire dangereux. Puis il y a toujours encore aujourd'hui des parties de l'océan qui sont pas hors de tous les pays. Là.
Exactement. On sait plus, scientifiquement, on sait plus à propos de la surface de Mars qu'on le sait à propos des bas-fonds océaniques.
Ouais.
Fait que c'est pas pour... À mon avis, c'est pas pour rien, encore pour rajouter une troisième corde à l'argumentaire, puis je suis encore en train de renchérir sur ça, c'est pas pour rien qu'au 21e siècle, on vient aux pirates.
Mm-hmm.
Parce que, pendant qu'on est... Bon, on l'a fait, là, si on... avec des guillemets, 1969, avec comme la Lune, comme le genre fait. Puis après ça, il y a Matt Damon qui l'a fait, puis toi, t'es correct. Mais là, on est comme en train de...
Puis Aerosmith aussi, en background, mais en tout cas, ça,
c'est... Ouais. Là, on s'en rend compte, tu sais. Il y a peut-être les fonds marins qui nous restent à...
Sur notre propre planète,
ouais,
avant d'aller visiter les autres.
Ouais.
Là, ouais.
Et le cyberespace.
Voilà.
En même temps, ça aussi, c'est comme...
Parce que ça aussi, c'est un autre territoire, si on peut dire, avec des guillemets, qui est infini, puis qui est virtuellement infini, parce qu'on peut créer des nouveaux espaces en plus. Là. Il n'y a pas comme... Je sais pas... Il n'y a pas comme une carte de l'Internet, puis on ne peut pas sortir de ça. Mais,
the Internet stops here.
Mais tu sais, vous dites espace, on parle de Space Pirates en joke depuis tantôt, mais je veux dire, Guardians of the Galaxy, là, c'est des pirates. Là.
C'est vrai,
mais Star-Lord, je veux dire, il fait des choses un peu sketch, mais c'est parce qu'éventuellement, il aimerait ça revenir sur sa terre natale, puis... Ouais. Tu sais, la famille, c'est quand même un thème important du deuxième opus, tout ça. Donc, les pirates sont présents, même quand on le sait pas. Ils sont toujours là. Ils sont partout.
Voilà. Les pirates sont partout.
Ils sont partout.
Mais les vrais pirates, le vrai trésor, c'est les amis qu'on s'est fait en chemin.
Non, arrête.
Pourquoi est-ce que t'arrêtes pas de dire ça?
C'est pas pour vous autres, je le dis.
Okay,
c'est pour les amis qui écoutent.
C'est bon, on vous aime énormément, les amis qui nous écoutent. Pour les amis qui voudraient étudier la dissonance ludonarrative, c'est Clint Hawking qui en est responsable.
C'est de sa faute.
Je l'ai en plus dans mes notes, mais je me suis...
Je voulais juste...
C'est parfait.
C'était pas pour toi, c'était pour les auditeurs. Les auditeurs aussi, on va quitter avec une suggestion de Megan Alexandre. Oui.
Quelques suggestions.
Je parlais de Hailstorm, on s'en va écouter.
Déjà?
Ouais.
Non.
Faut qu'on y aille.
Mais non.
Je suis désolé.
Ok, joue à Monkey Island.
Ah, c'est bon ça. Si tu veux, on peut les publier sur la page Facebook.
Oh, oui,
Further reading. Fait que Hailstorm de la pièce Drink, bonne semaine.
Ouais.
Il est minuit moins quart. Les briques sont usées.